Le vrai camembert, c'est AOP au lait cru de Normandie.
J'adore ce côté chlorophylle.
Et il est beau ce veau. Il a fière allure, il a le béret sur la tête.
Europe 1, 11h, midi 30.
Un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre. Ça, c'est délicieux aussi.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bien le bonjour les amis, les températures baissent, l'humidité revient, mais comptez sur nous pour vous réchauffer avec les plaisirs de la table. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Née sous Giscard, la nouvelle cuisine a transformé notre gastronomie, souvent caricaturée. Que reste-t-il de la nouvelle cuisine française? On va se poser la question ce matin. Voici mes bons vivants du jour. Née sous Giscard, elle aime nous raconter l'histoire de France à travers les cépages et les appellations. C'est Miss Glouglou pour les intimes. Voici Ophélie Neyman.
Bonjour Ophélie. Laurent.
Et vous êtes bien née sous Giscard?
Mais absolument, oui. Enfin, presque.
Presque.
Non, je suis née sous Giscard. Mais
ça veut dire quoi, presque?
Mais j'essaye de paraître plus jeune, quoi.
Oh, elle est coquette, elle fait sa coquette. Née sous De Gaulle, il a vu la nouvelle cuisine arriver avant de créer la sienne, bistronomique. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, bonjour Ophélie.
Bonjour.
Et vous êtes surpris, elle est née sous Giscard.
Ah, oui, je pensais pas. Je pensais que c'était sous Mitterrand.
Et oui, voilà, quoi. C'est ça.
Je suis très galant, moi.
Absolument, vous faites bien. Et nous partagerons un fish and chips avec notre invité, le dessinateur Jules. Vous savez, c'est le co-auteur du nouveau Lucky Luke. C'est lui aussi l'auteur de la super BD Silex and the City. Et bien, il sera avec nous sur les coups de midi. Alors, avant de parler du goût de la nouvelle cuisine des années 70 tout à l'heure, plus proche de nous, souvenons-nous de notre goût de la semaine. Et on va commencer par vous, on continue avec la galanterie Ophélie Neyman.
Eh bien moi, ce goût, c'était pour mes oreilles, parce que j'ai réécouté une chanson que j'adorais. Et oui, Anne Sylvestre est partie, elle nous a quittés à 86 ans. Elle a bercé mon enfance, mais aussi ma vie de femme. Et notamment une chanson que j'adorais qui s'appelait La Romanée Conti, parce qu'elle adorait le vin de Bourgogne. Et elle avait fait une chanson...
Elle avait bon goût.
Ouais. À l'aude de ce vin, c'était « Je voudrais pas crever avant de l'avoir goûté, la Romanée, la Romanée, la Romanée Conti ». Aubert de Villene, le propriétaire de la Romanée Conti, lui a fait parvenir une bouteille et ensuite elle a pu acheter une caisse.
Oh, joli.
Oui, oui, oui.
C'est une belle histoire.
Et elle le gardait dans sa cave et elle buvait ces bouteilles-là de temps en temps. J'en avais parlé avec elle. Pour l'écriture, la description du vin, c'est un régal.
Yves Candebord, cher ami, votre goût de la semaine?
Eh bien moi, Laurent, c'est du verjus du Gers. Voilà, c'est le domaine Saobis, Maurice Mondaler. Alors le verjus, Laurent, c'est le jus de raisin acide qui est extrait des raisins qui ne sont pas mûrs, qu'on utilisait au Moyen-Âge,
oui,
à l'époque, pour les vinaigrettes.
C'est assez acide. Hein.
Voilà, on l'utilisait parce qu'on n'avait pas la chance d'avoir tous les agrumes. Donc on utilisait le verjus pour donner de la fraîcheur au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, on l'utilise en cuisine. Et moi, j'ai un petit péché mignon avec le verjus à cette époque de l'année. C'est quand vous faites votre foie gras, quelle que soit la façon dont vous le faites, souvent vous le mettez à mariner avec un alcool.
Oui, Armagnac,
cognac. Ça peut être du Jurançon aussi.
Oui.
Eh bien, vous ne mettez pas ça, vous mettez du verjus. Et je vous promets que l'association gras-canard avec l'acidité du verjus, ça vous fait une superbe petite recette.
Ça me plaît parce qu'on ne sait jamais quoi en faire du verjus.
Voilà. Et même, ça amène un côté très exotique et surtout beaucoup de fraîcheur à votre foie gras.
Ah oui, puis en plus, c'est le moment de le dire, faites votre foie gras mi-cuit vous-même, ça coûte beaucoup moins cher, un bel assaisonnement. Et puis le verjus, effectivement, voilà, pour casser le gras, comme dit Yves Candebord.
Verjus du Gers.
Et c'est facile à faire, c'est facile à faire surtout.
Ouais, tout à fait.
Mon goût de la semaine, moi, c'est la poule au riz. Vous savez, cette recette familiale des arts ménagers, comme disaient nos grands-mères. Je suis en tournage actuellement pour mes émissions de télévision et je me suis amusé à refaire une poule au riz. En fait, c'est tout simplement une blanquette de poulet, on va dire, avec une sauce blanche, avec des légumes. Et j'ai fait cuire le riz façon pilaf avec le bouillon de la poule, parce que j'ai pris une vraie poule qui avait plus de 2 kilos, qui était musclée, qui a besoin de 2h30 de cuisson. Et je trouve que c'est un plat du moment, quoi. C'est réconfortant, c'est chaleureux. Et puis il y a cette sauce blanche qui vient caresser la volaille, comme ça, voilà, c'est un bon plat paysan comme on aime.
C'est régressif.
Exactement.
Et moi, je voudrais dire que c'est ce que je fais avec mes restes de poulet. Quand il me reste du poulet, je fais une sauce de poule au riz, je rajoute du riz avec les champignons, tout ça, je fais exactement cette sauce-là et c'est génial.
Ah bien, oui, c'est bien, bonne idée ça aussi. Il y a plein de bonnes idées, vous allez entendre jusqu'à midi et demi. Allez, on va au marché avec attestation et bientôt sans attestation, c'est l'heure d'y aller. Direction Castelnaudary dans l'Aude, hein, une ville célèbre évidemment pour son cassoulet, mais pas que. Benjamin Peter, le correspondant d'Europe 1 dans la région, a fait l'inventaire de vos petits plaisirs pour affronter le deuxième confinement. Benjamin Peter, au pays du cassoulet, c'est maintenant.
Qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà le chou-vert pour la soupe, le chou-fleur pour dans 3 ou 4 jours, de la salade de roquette. D'ailleurs, j'ai pris les derniers pieds.
Il y a les choux, les navets, les poros, les carottes, tout ce qui est pour la soupe, tout ce qui est pousse là. Les roquettes, moutarde, vous avez red chard. Il y a quoi se régaler.
Là, je viens acheter des produits qu'on ne trouve pas partout. ça, par exemple. Le pâtis doux, ça a le goût de la courgette, de la châtaigne, c'est très très bon.
C'est quoi votre plat signature là, du deuxième confinement?
Le cassoulet. Non, le cassoulet, on le fait, moi je le fais, oui, on fait le confit, on se fait tout, ouais. Mais on le fait occasionnellement, il faut une occasion, quoi.
Ce confinement nous a permis de ralentir et de se rendre compte qu'il y a des choses importantes, c'est-à-dire être autour de la table et penser à ce qu'on a dans l'assiette. Je venais tout le temps, mais ça devient encore plus important. Je réalisais que si on n'avait pas ce marché, la vie serait plus difficile. Et puis surtout en voyage, par exemple, il y a Marseillette, il y a les huîtres de la côte méditerranéenne. Du coup, j'ai voyagé un peu avec eux.
Voyageons, c'est ça. Ben voilà, la moralité de ce marché, c'est voyageons et prenons le temps de se faire plaisir à table. Elle a bien raison, la dame. C'est vrai qu'il faut redécouvrir ce petit temps lent, comme ça, d'être avec ses amis et sa famille autour d'une bonne table. Enfin, les amis, c'est pas tout à fait pour tout de suite, mais ça approche. Qu'est-ce qu'on boit avec un bon cassoulet, tiens, chère Ophélie?
Ben, Cahors. Il faut toujours privilégier les accords de la région. Le Cahors, c'est le Malbec, et le Malbec, c'est parfait avec le cassoulet. Ça casse le gras, ça rehausse un peu. Un petit domaine comme ça, pas cher, Combelles-la-Serre, c'est très joli, c'est pas très cher, bon rapport qualité-prix, et c'est impeccable pour le Cahors. Et si vraiment vous avez des sous et un goût incroyable, Cosse Maisonneuve, c'est tellement fin, c'est presque bourguignon, c'est incroyable.
Elle en cause bien, hein, dites donc. Hein.
Oui, puis je suis d'accord sur les deux vignerons, c'est deux vignerons d'exception.
Validé par Yves Candebord en plus. Allez, super. On continue à se faire plaisir avec une partie du bœuf qui renferme de nombreux trésors. C'est la Loyaux, à tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Ce samedi matin, on joue aux explorateurs bouchers. Nous partons à la découverte de l'arrière-train du bœuf La Loyaux. Mais avant de parler des morceaux, on va faire un petit peu d'étymologie avec vous, Ophélie. Ça vient d'où d'ailleurs ce mot?
Ça vient du 14e siècle de l'ancien français Aloël. Aloël, ça désignait d'abord les morceaux de bœuf cuit à la broche comme des alouettes.
Ah,
et oui, Aloël, gentil Aloël.
C'est ça, Loyaux, gentil Loyaux, c'est beau ça aussi.
Voilà, et au 19e siècle...
Elle est très chanteuse aujourd'hui.
Oui, c'est ça, elle est d'humeur chanteuse.
Mais je suis heureuse d'être avec vous. Au 19e siècle, le mot a trouvé finalement sa place sur la carcasse, et voilà, la Loyaux.
Alors Yves, vous l'amateur de belle viande rouge, faites-nous un petit cours d'anatomie pour situer la Loyaux dans l'animal.
Alors, la Loyaux, c'est une partie latérale arrière de la bête, juste avant la croupe. Et c'est une partie que les grossistes apportent chez le boucher pour qu'après, eux, la découpent.
Alors, à l'intérieur de la Loyaux, il existe plusieurs morceaux. Vous en trouverez chez votre boucher à votre goût, ça j'en suis sûr. Mais là, on vous emmène dans une boucherie de famille parisienne, chez les Bissonnet, à la tête des boucheries nivernaises depuis 3 générations. Alors, quel morceau, précisément, compose la Loyaux? Julien Amat leur a posé la question et chez eux, je peux vous dire que c'est une histoire de famille, la Loyaux.
C'est une question qui concerne directement mon papa, Jean Bissonnet, ce fameux cœur de la Loyaux que papa a inventé en quelque sorte. Composition de la Loyaux, morceau du bœuf qui comprend donc le rumsteak, le faux filet, la côte de bœuf. Le long du morceau, vous avez la bavette de la Loyaux, le long de la Loyaux donc. Et à l'intérieur de cette coquille d'os, extrêmement protégé. C'est pour ça qu'il est aussi tendre, le fameux filet de bœuf. Donc papa est parti de ce morceau, a épluché le faux filet de façon intégrale.
On épluche la viande, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire qu'on vient enlever ou le nerf ou la graisse de couverture pour venir mettre le produit à nu.
C'est un morceau relativement rectangulaire, très facile à piécer.
Et ben voilà, c'est clair ça. Merci Bernard et Jean-Baptiste Bissonnet, le cœur de la Loyaux. Et donc dans la Loyaux, on a bien retenu, il y a le faux filet, la côte, mais aussi la fameuse bavette de la Loyaux, Yves.
Oui, hein, complètement. Et moi, c'est mon morceau préféré. C'est vrai que la bavette a une texture très particulière. C'est légèrement filandreux et croquant. Et j'ai eu la chance de travailler avec Christian Constant.
Ah, le grand Christian Constant.
Ouais, et c'était pour lui une de ses grandes spécialités. La bavette. Alors, on cuisait des bavettes selon la cuisson qu'on aime, rosée, à point ou bien cuite. Après, on ciselait très finement des échalotes qu'on déposait dessus, une fois la viande cuite. On mettait de la ciboulette, du sel et du poivre du moulin et on recouvrait de quelques gouttes d'huile d'olive. On enrobait ça dans une feuille d'aluminium, on laissait à température juste au-dessus du fourneau pendant 3-4 minutes et ça infusait. La viande chauffait l'échalote, on gardait tout ce côté fruité et croquant de l'échalote. Et je peux vous assurer, Laurent, qu'au crayon, c'était le plat référence de l'obélisque. On faisait un tabac avec.
Et bien, je peux vous dire que de nombreux auditeurs vont aller chez leur boucher ce matin acheter une bavette parce que vous nous avez donné envie là, de faire cette bavette aux échalotes. Tiens, un boucher à recommander, Ophélie.
Si je vous dis dans les Vosges,
ah,
vous êtes pas fâchés.
Allez-y, au contraire.
Alors, à Cornimont, vous allez chez Genet, voilà.
Très bien,
il fait
oui.
de la très bonne viande.
Il y a Lorraine aussi. Et vous,
alors moi, je vais vous dire un petit village du Vaucluse à Mérindol, la boucherie Montagnon, Cédric, qui a une viande de bœuf et une viande d'agneau aussi. Exceptionnelle.
Et ben voilà, vous retrouverez évidemment cette chronique en podcast sur europe1.fr.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de répondre à vos questions et pour cela, nous accueillons Fanny Rascle. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour la bande.
Vous venez tailler la bavette avec nous alors ?
Et ben, surtout les échalotes dessus au four, j'aime beaucoup cette idée.
On a envie. Hein. Alors sur la page Facebook des Bons Vivants ou sur le 3921, vous avez récolté les questions de nos auditeurs et elles sont nombreuses hein, chaque semaine.
Exactement, on est là si vous avez besoin d'un conseil pour faire vos courses ou d'une astuce en cuisine. On écoute une première question laissée sur notre répondeur.
Salut Laurent et les bons vivants, moi c'est Johanna, j'habite à Pontoise en région parisienne. Ma question concernait le lait tout simplement. À chaque fois que je me retrouve en rayon, j'ai toujours du mal à choisir, tant il y a de sortes différentes et je me demandais quelle était la différence entre le lait UHT et le lait pasteurisé par exemple. Voilà, merci d'avance, à bientôt.
Eh bien le lait UHT et le lait pasteurisé. Alors le lait UHT, on l'a acheté et on l'a bu et le lait pasteurisé, non, je blague. Alors le lait UHT, Ophélie, racontez-nous.
Oui, c'est une technique de stérilisation particulière parce que le lait il est porté instantanément à une température très élevée, 140-150 degrés pendant un temps très très court, 2-5 secondes.
Voilà, c'est vraiment une flash stérilisation, on va
exactement.
Dire.
Exactement, et là on peut le garder 3 mois.
C'est ça, oui, ça se conserve longtemps, mm-hmm. ça. Oui, oui. Et puis pas au froid, évidemment. Alors, on le garde au garage, au cellier. Yves Candebord, la pasteurisation, alors.
Alors, c'est une technique de stérilisation qui s'effectue à 71,5 degrés pendant 15 secondes, puis le lait est rapidement refroidi à 4 degrés, ce qui permet une conservation avant ouverture entre 15 et 20 jours.
Oui, la pasteurisation, c'est un peu plus long, en fait, de 10 secondes, mais moins élevé en température. Le goût, on va dire que si on veut avoir du bon goût de lait, il faut acheter du lait frais quand même, on ne va pas se mentir.
Il n'y a pas photo, Laurent. Le goût, c'est le lait frais. C'est vrai qu'on a tendance des fois à prendre des briques de lait qu'on conserve bêtement, je dirais, dans son cellier ou dans son garage. Mieux vaut au journalier prendre du lait frais. Et je peux vous assurer, point de vue goût, il n'y a pas photo.
C'est vrai, picorons en faisant nos courses et en achetant petit à petit de temps en temps. Une autre question peut-être, Fanny ?
Oui, sur le groupe Facebook des Bons Vivants, vous le savez, on entame la saison des fondus. Et Anne voudrait savoir quelle alternative elle pourrait trouver à la traditionnelle fondue savoyarde qui est quand même le must. Mais alors, essayons de trouver des alternatives.
On parlera de la raclette tout à l'heure avec Yves Candebord, mais les fondus. Alors la savoyarde déjà, tiens, on va revenir sur les fromages officiels de la savoyarde. Il y a 40% de Beaufort, 40% d'Abondance et 20% des Mentales. Ça, ce sont les fromages officiels de la Savoyarde. Mais il y en a plein d'autres de fondus. Il y a la Suisse,
oui, et puis Laurent, il y a un peu de chauvinisme, Laurent. Il n'y a pas que les Vosges et les Suisses. Il y a aussi le Pays Basque.
Oui, avec du fromage de brebis.
Oui, il faut moitié fromage de brebis, moitié chèvre. C'est totalement différent. C'est un goût vraiment très particulier, mais c'est une belle alternative.
Mais carrément, une fondue auvergnate aussi avec du Saint-Nectaire et du Cantal. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure justement les coups de fourchette du président Giscard avec Jean-Luc Petit-Renaud. Donc voilà aussi un bel hommage en faisant une fondue auvergnate. Ben voilà.
Et mais vous connaissez pas la fondue du frigo ? Ben vous prenez tous vos restes de fromage qu'il y a dans le frigo, puis vous faites tout fondre.
Mais vous avez bien raison, mais évidemment.
C'est la plus maligne, mais celle-là, je l'aime beaucoup.
Mais c'est la meilleure, bien sûr. Et on peut avoir un vin générique pour tout ça, un blanc.
Oui, hein. un blanc assez sec, assez nerveux, et ça marche très bien aussi.
Pas d'eau pendant la fondue, hein, ça fait bloc dans l'estomac. Et là, je blague pas, il faut boire du vin avec la fondue,
absolument.
Pour le coup, avec modération, bien sûr.
Ça évite de solidifier. Oui.
Comme quand on mange, il faut boire du vin en mangeant avec modération.
Et l'eau, et on mange des légumes, voilà. On continue à poser des questions, Fanny.
Exactement, sur le répondeur de l'émission au 3921. 50 centimes par minute sur Twitter ou sur notre groupe Facebook. On vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres questions.
Merci Fanny Rascle et ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec votre journal de la cuisine. Et Jean-Luc Petit-Renaud, je vous l'ai dit, va se souvenir du président Giscard à table. A tout de suite.
Laurent Mariotte.
Que reste-t-il de la nouvelle cuisine née sous Giscard ? Souvent caricaturée, la nouvelle cuisine a laissé une empreinte plus importante qu'on ne le pense dans notre gastronomie. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Mais juste avant, voici les titres de votre journal de la cuisine, Fanny Rascle. L'appel de grand chef pour une livraison plus éthique. Le Brescola désormais normand et des idées cadeaux made in France. Voici le menu du journal de la cuisine. Alors, plusieurs chefs lancent un appel pour une livraison éthique. On a lancé le sujet et le débat la semaine dernière avec Charlotte Langrand, justement.
Exactement, elle avait commencé à vous parler de ce sujet. Depuis, de grands chefs comme Régis Marcon ou Arnaud Lallemand ont pris le relais dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. Ils dénoncent, je cite, « des plateformes aux méthodes contestables qui font de la livraison à domicile en s'appuyant sur des livreurs précarisés. Il pointe aussi du doigt les dark kitchens. Ce sont ces cuisines qui ne fonctionnent que pour la vente à distance.
Oui, on en a parlé aussi, oui.
Exactement. Et surtout, il lance un appel aux consommateurs. Prenez le temps de réfléchir à deux fois avant de commander un plat qui est garanti livré en 20 minutes.
Mais beaucoup de restaurateurs ont pour unique solution encore ces plateformes, il faut bien le dire. Donc soutenons nos restaurateurs et en achetant en livraison malgré tout. Hein. Le Brescola devient normand, c'est quoi cette blague Fanny ?
Ça ressemble à un album d'Astérix, mais dans le détail, c'est la coopérative Agrial basée à Caen. C'est un poids lourd de l'agroalimentaire, déjà propriétaire du cidre Loïc Raison. Agrial donc qui devient actionnaire majoritaire du producteur de soda breton, dont il était déjà partenaire depuis 10 ans. Du coup, la recette ne va pas changer, ni la fabrication en Bretagne. On est loin de la trahison des Bretons. Quant à l'un des créateurs du Brescola, eh bien, il a décidé de prendre le large pour se lancer dans la distillerie de whisky, une spécialité bretonne donc.
Mais bien sûr, mais on en faisait déjà dans d'autres régions en France aussi, hein, de whisky. Et on termine ce journal de la cuisine par des idées de cadeaux très gourmands.
Gourmands et Made in France, les équipes du salon du Made in France, qui a été annulé cette année évidemment, ont créé un catalogue de Noël avec à l'intérieur uniquement des produits garantis 100% fabriqués en France. Et il y a une section gastronomie très intéressante, si le Père Noël nous écoute évidemment. On y trouve par exemple une fourchette trident en inox à offrir à un amateur de viande, on en parlait tout à l'heure, ou un kit de préparation de cookies pour un apprenti pâtissier. Avec ce rappel, un produit fabriqué en France génère en moyenne 3 fois plus d'emplois qu'un produit importé. Toutes les infos sur mifexpo.fr.
Et oui, n'oublions pas les métiers qui sont derrière tous les produits que nous pouvons nous offrir à Noël. Merci Fanny Rascle.
Avec plaisir.
Et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Alors vous le savez, Jean-Luc Petit-Renaud nous régale régulièrement de ses souvenirs de table. Notre expert des balades et des escapades avait recueilli, figurez-vous, les confidences gourmandes de Valéry Giscard d'Estaing et qui était un fin gastronome. On pense souvent à Chirac comme fin gastronome. Eh bien écoutez, je peux vous dire qu'il était plus gourmet que gourmand, le président Giscard.
Bonjour les amis. Saviez-vous que le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, après son mandat, je l'avais invité dans une émission et j'avais intitulé l'épisode « La cuisine des femmes en Auvergne ». Cuisine qu'il adorait, bien entendu, pour ses origines. Et là, au milieu de belles cuisinières, aubergistes, vous savez comment on les aime, les auberges de coin de rue, quoi, qui étaient rassemblées autour d'un fourneau, le président donna la recette de ces pommes de terre farcies de sa propre enfance. Alors on le vit à la grande surprise de tout le monde, il dégaina de la poche de son costume la fiche technique de la recette, précisant avec des gestes à approprier l'art et la manière de farcir. Alors il mimait le sel filant entre ses doigts devant toutes ces belles dames qui étaient complètement captivées, subjuguées. Et puis juste après la registration, il me confia qu'il adorait lire des recettes, et notamment juste avant de s'endormir, parce qu'il trouvait qu'il y avait une sorte de proximité entre un roman et un recueil de recettes. Et pour la centième de l'émission, à Paris, nous avions décidé de faire un petit banquet pour fêter l'événement, et le président Giscard d'Estaing a été invité, et il est venu. Il est venu en m'apportant un livre tout simple, La cuisine familiale de Ginette Mathiot, qu'il m'a offert. Elle est jolie l'histoire, non ?
Elle est très belle l'histoire, tonton Jean-Luc, effectivement.
Elle est très, très belle.
Mais moi je fais pareil, j'adore lire des recettes avant de m'endormir. C'est vrai que c'est un rythme, et puis on s'endort en voyant des plats, en voyant de jolis légumes.
On s'endort en ayant faim, c'est pas possible.
C'est vrai aussi.
Parce que c'est de la poésie, c'est l'assemblage voilà, de mets, de saveurs. C'est comme la littérature, il y a l'assemblage de mots, nous c'est un assemblage de saveurs.
Les mets et les mots, et absolument.
C'est de la poésie.
Yves Candebord. Et tiens, on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire.
Happy birthday,
Jean-Luc Petit-Renaud.
Happy birthday to you.
J'ai un ténor à ma gauche. Joyeux anniversaire, Jean-Luc Petit-Renaud. Et ne bougez pas, on revient juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
La nouvelle cuisine pointe son nez en 1973 avec Goemio. Elle est adoubée sous Giscard en 75 par 13 chefs qui ont envie de nouveautés. Ses haricots verts croquants, ses sauces légères et ses cuissons courtes. La nouvelle cuisine a révolutionné la gastronomie française. Alors 47 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing vient de nous quitter. Mais que reste-t-il de la nouvelle cuisine? Eh bien, on se pose la question ce matin à la table des bons vivants. Et on va commencer avec vous, Yves Candebordes. La nouvelle cuisine, tiens, pour les néophytes, qu'est-ce que c'est, tiens?
Ben, ça représente l'évolution de la cuisine dans les années 70. Voilà. Il faut remettre ça dans le contexte de l'après-guerre. On avait passé 15 ans un peu, parce que suite à la guerre, on avait été privé un peu de produits de luxe. Donc on tombe dans cet excès, dans cette côté très ripaille, ce gras, le foie gras,
les viandes faisandées,
les marinades. Donc on est dans cet excès, une cuisine lourde. Et on va peut-être, j'irai au bout de l'histoire, grâce à deux grands journalistes, déclenche tout un mouvement de liberté.
Alors exactement, on dit qu'elle est née sous Giscard, hein, c'est ce que je dis. Elle est née en 73 exactement, mais elle a commencé à prendre ses marques dans les années 60, en 63, en 64. On va vous raconter tout ça. Effectivement, ce sont deux grands critiques gastronomiques, Gou et Millot, Ophélie, qui lancent ce mouvement et qui en font presque du marketing, quoi.
Oui, c'est plus exactement Henri Gou et Christian Millot, et ils avaient leur guide et ils avaient aussi un magazine. Et en octobre 73, ils annoncent l'avènement de la nouvelle cuisine française. Alors, c'est un peu comme la bistronomie de Sébastien Demorand, dont on parle souvent. Mais là, c'est vraiment la formule nouvelle cuisine.
Ce sont des critiques qui mettent en fait des mots sur des mouvements culinaires. Alors, Christian Millot a été chroniqueur sur Europe 1. Nos auditeurs les plus anciens s'en souviennent peut-être. Et il s'exprimait en 75 sur ce mouvement de la nouvelle cuisine.
C'est une cuisine qui correspond beaucoup mieux à notre époque. C'est une cuisine plus légère, plus proche de la vérité, plus proche des produits. Parce qu'il y a une chose quand même qui est curieuse. C'est de penser que nos grands-parents, qui avaient à leur disposition des produits qu'aujourd'hui nous appelons naturels, mais finalement ils n'y attachaient pas une grande importance, parce que c'était une époque, au contraire, où on faisait des marinades, on travestissait les produits. Or, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver de très bons produits, les produits de ferme. Et bien, justement, il n'y a jamais eu une telle demande de ces produits.
Merci Christian Millot. Ça a changé, ça effectivement, parce qu'aujourd'hui, on trouve de très bons produits de ferme grâce aux circuits courts qui se sont développés. Mais à chaque époque, sa révolution culinaire. Et c'est vrai que cette cuisine qui était sur des sauces allégées pour l'époque peut même paraître un petit peu datée pour aujourd'hui et presque un petit peu trop lourde. Mais on va citer quand même tous les grands chefs de l'époque qui ont fait partie de ce mouvement. C'est Paul Bocuse, en fait, à Collonges au Mont d'Or, qui a lancé le mouvement, Yves Candebordes. Hein.
Oui, c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre entre cuisiniers emblématiques et Paul Bocuse. Et pourtant, Dieu sait que lui, quand même, c'était quelqu'un qui défendait la tradition.
La crème et le beurre.
La crème et le beurre, avec Henri Gou et Christian Millot, en leur faisant un repas, comme vous le dites tout à l'heure, un peu plus simple, haricots verts croquants. Et poisson pas trop cuit.
Oui, mais pourquoi il leur a fait ce repas? C'est parce que Gou et Millot avaient mangé chez Bocuse le midi, il leur avait fait un plat avec du beurre et de la crème à profusion, et ils n'en pouvaient plus, ils ont passé l'après-midi comme ça, à avoir ça sur l'estomac, et le soir ils lui ont dit, on a plus faim, mais fais-nous un truc ultra léger, et il leur a fait les haricots verts et les rougets mi-cuits.
Oui, c'est là que c'est très, très intéressant, c'est ce rapport entre le journaliste et le cuisinier qui a fait exploser cette nouvelle cuisine, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, les saveurs originelles du produit. Et est-ce qu'il y a meilleur que ça? Ils lui ont dit non.
La cuisson au plus près du produit.
La cuisson au plus près du produit. La simplicité.
Alors, il y a Paul Bocuse, on vient de le dire. Il y a Michel Guérard qui faisait partie de ce mouvement. Alain Chapelle à Mionnet. Jean et Pierre Troigros à Roanne. Paul et Berlin en Alsace. Roger Verger à Mougins. Raymond Oliver. René Lasserre. Gaston Lenôtre à Paris. Louis Houtier à la Napoule. Charles Barry à Tours. Et Pierre Laporte à Biarritz. Ce sont ces 13 chefs vraiment qui ont porté ce mouvement de la nouvelle cuisine. Il y avait 10 commandements dans ce mouvement culinaire. Alors, il y avait une cuire à pas trop. Hein, donc on fait des cuissons courtes.
Saumon à l'oseille de chez Troigros, un saumon à l'unilatéral à peine cuit.
Tu utiliseras des produits frais et de qualité, donc la règle de la cuisine du marché. Hein.
Du bon sens paysan.
Ça paraît une évidence aujourd'hui.
Mais c'est vrai. Tu allégeras ta carte. Alors oui, c'est vrai que c'était des cartes à rallonge un petit peu à l'époque.
Et oui, ça permettait justement d'avoir des cartes courtes, d'avoir une rotation des produits pour avoir des produits de plus en plus frais.
Tu éviteras marinade, faisandage, fermentation. C'est vrai qu'ils sont des choses encore presque héritées du Moyen-Âge, hein, ces techniques de cuisine.
Cette façon de travailler, masquer le goût original des produits.
Tu élimineras les sauces riches, hein, donc c'est vrai qu'on veut alléger. Mais ce que je trouve drôle, c'est que les sauces allégées de l'époque sont encore presque trop lourdes pour aujourd'hui.
Chacun sa génération.
Tu n'ignoreras pas la diététique.
Ça, c'était très important parce qu'ils se rendaient compte que leurs consommateurs ne pouvaient plus continuer à manger deux fois par jour dans leur restaurant en mangeant à l'opulence qu'il mangeait.
Et Michel Guérard, justement, avec sa grande cuisine minceur, a été un des fers de lance de cette nouvelle cuisine accessible pour le plaisir et pour l'estomac. Et la nouvelle cuisine a aussi opéré des changements dans le domaine du vin, Ophélie. Hein.
Oui, absolument, parce que chacun de ces chefs avait sa région de prédilection. Et c'est comme ça que, alors qu'on était plutôt dans une mode du Bordeaux et de vin peu fruité, hein, très tannique, très dur à boire dans leur jeunesse, on a vu émerger le Beaujolais qui n'existait pas trop avant, on en parlait pas. Et là, tout d'un coup, les vins du Rhône aussi sont devenus de grands vins, alors qu'avant, c'était le petit vin de comptoir. Et on est allé vers des vins de petit à petit, de plus en plus fruités et à boire jeune.
Populaire sous Giscard, que reste-t-il de la nouvelle cuisine? On en parle juste après ça avec Michel Guérard, qui sera avec nous, le doyen de nos chefs cuisiniers. Et je peux vous dire que c'est le plus jeune. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
En cuisine et dans l'assiette, il y a un avant et un après nouvelle cuisine. Populaire sous Giscard, ce mouvement a révolutionné nos assiettes avec ses cuissons courtes, sa créativité, sa volonté de remettre le produit au centre de l'assiette. C'était moderne en 73 et ça l'est toujours encore aujourd'hui finalement. Yves, vous expliquiez, vous, que la nouvelle cuisine, vous l'avez vue se développer vraiment quand vous étiez au Ritz, au Crillon, cuisinier aux côtés des chefs de l'époque.
Oui, complètement. Alors je vais vous faire peur, Laurent. 80, quand j'arrive au Ritz, il faut savoir qu'on devait passer par mois entre 250 et 300 litres de crème pour 2 litres d'huile d'olive. On devait passer 2 bottes de basilic qui étaient qu'en décor.
Et oui, c'est ça.
On était encore sur des carcans de cuisine d'escoffier. Et on a vu que la clientèle qui demandait beaucoup plus de fraîcheur, qui demandait beaucoup plus de légèreté, nous a imposé de se renouveler complètement. Et des exemples, c'est la sauce vierge. La fameuse sauce vierge classique, c'était du beurre battu avec du citron. Même si l'acidité, c'est lourd. On l'a transformé, huile d'olive, tomate, basilic, citron.
Mais dites-moi, celui qui aurait inventé cette sauce vierge, ce ne serait pas Michel Guérard?
C'est Michel Guérard. Voilà. On a commencé à prendre le livre de Michel Guérard, à l'ouvrir.
Le grand livre de la cuisine minceur.
Et ben comprendre philosophiquement.
Il est avec nous au téléphone, Michel Guérard. Bonjour Michel.
Bonjour chers amis, bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous savez que vous avez votre ronde serviette à cette table des bons vivants. Le chef 3 étoiles des Prés d'Eugénie à Eugénie-les-Bains. Vous êtes un des précurseurs de cette nouvelle cuisine. On en parle depuis quelques minutes sur Europe 1. Que reste-t-il de la nouvelle cuisine pour vous, Michel Guérard?
Le terme nouvelle cuisine, dans son orthographe, a été créé au XVIIIe siècle déjà.
Déjà.
Donc, par la suite, bien sûr, et ce qu'évoque notre ami Candebord, c'est une cuisine qui s'évolue à une époque un peu plus sanitaire, un peu moins débordante de gras et de toutes sortes de choses comme ça qui la rendaient presque parfois indigeste.
Et oui, un peu plus diététique, c'est ce que vous faites encore aujourd'hui à Eugénie-les-Bains. Alors, vous étiez en 75 à l'Élysée avec votre copain Paul Bocuse, hein, pour la remise de la Légion d'honneur à Monsieur Paul. Vous étiez en cuisine. À quoi ressemblait l'ambiance dans les cuisines de l'Élysée? Qu'est-ce que vous avez fait comme joli plat? Racontez-nous.
Je me souviens que Monsieur Giscard d'Estaing, qui vient de nous quitter, était un fin gastronome. J'avais eu l'occasion de le recevoir dans mon petit bistrot d'Anières, le Pot-au-Feu. Il dégustait avec beaucoup de grâce, je dirais.
Et à l'Élysée, qu'est-ce que vous aviez fait? Alors, Monsieur Paul a fait la soupe VGE.
À l'Élysée, c'était un plat qui aurait pu ressembler à un pâté de canard, mais qui n'en était pas du tout. Hein. Voilà.
Il y avait des aiguillettes de canard, je crois, et du foie gras avec une gelée.
Voilà, c'était un canard qui était saignant, très tendre, que j'avais accompagné d'un foie de canard que j'avais cuit en même temps que le canard, et j'avais utilisé le bouillon de cuisson pour en faire une gelée au poivre.
Michel Guérard, y a-t-il encore un plat né à l'époque de la nouvelle cuisine qu'on trouve encore à votre carte chez vous à Eugénie-les-Bains?
Ah, c'est une bonne question qui me laisse quoi. Il y a des plats que je faisais il y a 30 ans que je continue de faire. Par exemple, un plat, je ne peux pas l'évacuer de ma carte, c'est ce truc que j'ai appelé l'oreiller moelleux de mousseron et de morille. L'idée m'était venue lors d'un voyage en Chine en 1978 que nous avions fait avec Alain Chapelle, Alain Saint-Drin et Pierre Bertrand Gros, on avait tous ramené des idées, et moi j'avais ramené l'idée du dimsum que j'ai converti un petit peu en ravioli,
c'est ça.
Qui était un produit une nourriture de chantier, mais dans lequel j'avais introduit de la truffe.
Et je crois qu'Innoventura en était dingue d'ailleurs de cet oreiller de mousson.
Oui, hein, il a été le premier à le goûter. C'est drôle.
Merci pour ces beaux souvenirs et cette belle mémoire de la cuisine
avec
française,
grand plaisir.
Michel Guérard. Et c'est le titre de votre livre justement, Mémoire de la cuisine française, chez Albin Michel. Belle journée et on a hâte de venir vous retrouver dès la reprise et la réouverture. Eh bien, nous viendrons.
Au revoir, Gérard.
Merci de m'avoir invité.
Au revoir,
Michel Guérard. Eh bien voilà, conclusion, la nouvelle cuisine n'est pas morte, hein, loin de là. Elle a évolué, elle évolue encore et elle est en mouvement perpétuel, on peut dire en conclusion.
Oui, moi je pense qu'elle est générationnelle, il l'a bien dit. Voilà, Escoffier à l'époque, c'était de la nouvelle cuisine. Toute la génération, c'est de la nouvelle cuisine. Dans les années 2000, on a fait notre évolution. Et les jeunes qui arrivent, qui sont pleins de qualités, qui ont des belles philosophies, vont aller encore plus loin.
Et oui, la nouvelle cuisine locavore, voilà. On pourrait rajouter aujourd'hui. Ouais. Ne bougez pas, on revient dans un instant et le plat du jour se rapproche. Un bon fish and chips à partager avec notre invité dans un instant. Allez, bientôt midi, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Agrégé d'histoire, il est professeur. Quand il décide de prendre la plume d'escampette pour tracer sa route de dessinateur, poil à gratter, il aime la satire politique. Scénariste du dernier Lucky Luke, il vient nous voir avec deux albums et un livre. Jules est notre invité. Bonjour Jules.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jules.
Ravi de vous recevoir. On vous a mis une assiette et des couverts. Vous étiez surpris, mais on va manger, vous allez voir.
Ah là là, mais je salive déjà, le micro est tout mouillé.
Alors, deux albums, je le disais. Un cow-boy dans le coton, ça c'est Lucky Luke, c'est HD le dessinateur et c'est vous le scénariste, aux éditions Lucky Collection. Et puis Silex on the City, ça c'est vous, dessinateur et scénariste. Moi j'adore cette saga préhistorique, là c'est le 9e épisode. Et écoutez bien le titre, ça va vous parler, chers auditeurs, c'est la dernière des confinements. Hein, vous avez plongé
un album de saison, c'est de circonstance.
Mais c'est génial parce que c'est l'homme préhistorique confronté au Covid avec la distanciation, avec la fumée qui serait soi-disant bonne pour guérir du Covid.
Enfin, ils ont inventé le feu parce qu'il paraît que ouais, quand il y a de la fumée, ça va mieux.
Et puis vous avez aussi participé à un très beau livre, on va en parler tout à l'heure, Lettre à ce prof qui a changé ma vie, un hommage à Samuel Paty. C'est aux éditions Pocket Robert Laffont, un très beau livre avec de beaux auteurs. 40 auteurs qui se souviennent de leurs profs et de leurs rencontres marquantes, parce que les profs effectivement changent la vie, on ne le dira jamais assez. Voilà, on est ensemble jusqu'à midi et demi. Cher Jules, vous êtes un gourmand, hein, et un cuisinier aussi.
Mais oui, j'étais ravi de recevoir une invitation pour cette émission, parce que ça m'a remis dans un état un petit peu, moi qui suis extrêmement triste et malheureux de la fermeture des restaurants, là ça me manque énormément, donc au moins voilà, on peut évoquer par la voix toutes ces choses
c'est vrai,
qu'on
alors
adore.
Vous cuisinez au quotidien, vous avez des enfants, vous êtes un papa cuistot, vous arrivez à combler les désirs de tout le monde en cuisine?
Oui, parce que moi je fais partie de ces gens je cuisine tout seul pour mes deux filles, et du coup je fais quasiment trois repas par repas, parce que personne n'a les mêmes goûts, hein. Il y a celle qui aime les haricots verts, celle qui aime les petits pois, celle qui mange la même chose mais crue et l'autre cuit, et donc je jongle. J'ai vraiment l'impression d'avoir un service en restaurant à faire avec les désirs de chacun.
Donc vous êtes un vrai cuisinier parce que vous savez vous adapter.
Ah, je m'adapte à fond.
Et oui, c'est ça.
Je suis le voilà, 4x4 de la cuisine.
Quel est votre goût de la semaine, Jules?
Alors, en fait, il y a quelque chose de très bon que j'ai découvert en livraison chez un restaurant chinois que j'adore, parce que les restaurants chinois qui sont bons, ils sont pas légion finalement. Il y en a à chaque coin de rue, mais la plupart du temps, c'est un peu stéréotypé, pas terrible. Là, c'est un restaurant qui s'appelle Nanchang et ils font des oreilles de cochon émincées, comme ça, un peu pimentées, qu'on mange froid. Il y a un peu le petit croustillant
comme
du cartilage.
Des chips. Oui.
Pas comme des chips, c'est pas frissé.
Ah, c'est pas frissé.
Non, voilà. C'est, vous voyez, un peu comme on imaginait le museau vinaigret traditionnel.
D'accord.
Quoi, mais imaginez, voilà, une oreille de cochon qu'on trancherait en lamelles comme ça, et c'est vachement bon ça. D'ailleurs, j'ai cette blague sur le cochon. Les Chinois, le cochon, ils adorent ça. Ils appellent ça ils appellent ça tajou, ça veut dire la grande viande, parce que c'est l'équivalent de dans le cochon, tout est bon, hein, finalement.
Bien sûr. Sauf
et dans le Lucky Luke, il y a une blague là-dessus, parce que bon, il hérite d'une plantation de coton, et puis son voisin, comme ça, a comme pancarte à l'entrée de sa plantation, dans le coton, tout est bon.
Donc, voilà, c'est ça, ça. Oui, c'est exact, c'est vrai. On va en parler parce que Lucky Luke se retrouve à la tête d'une plantation de coton en Nouvelle-Louisiane.
Pas de cochon ?
Non, pas de cochon, de coton. Avec la météo de ces derniers jours, les recettes à base de fromage, je ne sais pas si vous avez remarqué, Jules, séduisent de nombreux Français. Tout le monde se rue sur le fromage, les fondus et les raclettes, parce que la raclette, ça cartonne toujours, Yves. Hein.
Oui, c'est un plat, je dirais, emblématique de la saison. C'est surtout un plat emblématique des montagnes. Ça nous vient de Suisse. C'est les bergers suisses qui l'ont créé, parce qu'ils appelaient ça le fromage à rôtir à l'époque. Et c'est vrai que c'est un plat qu'on aime parce que c'est un plat qui est convivial, c'est un plat de partage. C'est un plat qui a été démocratisé dans les années 70 quand le
oui,
ski
avec
est
les
devenu...
stations de ski, ça a inspiré Tefal qui a fait cet appareil à raclette et qui a un petit peu transformé nos familles. Hein.
Oui, ça a été, je dirais, ça a été le coup de génie avec cet appareil domestique qu'on voit maintenant dans tous les foyers. Mais c'est vrai que le fromage rôti, demi-fromage rôti entier, honnêtement Laurent, c'est quand même meilleur. Voilà. Par mon goût personnel, parce que c'est là
oui,
la vraie
raclette qu'on a fait raclette. Encore en montagne.
Mais Tefal
oui.
a permis à tout le monde, au quotidien, même, je dirais, hors saison, de pouvoir profiter en famille de la raclette.
Quel fromage choisir, alors, si on veut réussir sa raclette, Yves ?
Alors, le fromage, pour moi, emblématique, le meilleur fromage, c'est l'IGP, raclette de Savoie au lait cru. Ça, c'est l'exceptionnel. Après, on trouve chez notre fromager beaucoup de fromages affinés, ainsi que dans la GMS.
Oui, la grande distribution, mais on évite quand même les fromages industriels pasteurisés sous cellophane, voilà. Qui n'ont pas forcément beaucoup de goût. Quoi,
parce que complètement. On évite surtout tout ce qui est fromage, je dirais, pré-tranché. Voilà, mais vous achetez un morceau de raclette, c'est assez facile à trancher. Je dirais, après la raclette pour moi, je vais vous choquer, je la compare à la pizza. Elle accepte tout.
Oui, on peut la customiser, bien
sûr. On peut la customiser comme dedans. C'est vrai que le grand classique, c'est pommes de terre, charcuterie. Mais on peut s'amuser de faire une raclette végétarienne avec champignons de Paris, feuilles de basilic, des olives. Avec les enfants, une hawaïenne, comme la pizza hawaïenne.
Carrément. Il se lâche, Yves Candebord.
Non, mais je vous promets, le fromage avec des petits cubes d'ananas et du jambon. Oui. Ça plaît
dans les
enfants.
Petits poêlons, comme ça, oui.
Tout à fait. La raclette accepte pratiquement toutes les saveurs. On peut même aller jusqu'au saumon fumé. Flet en fumée.
Une hawaïenne en raclette,
non,
Jules ?
Mais par contre, celle que vous évoquiez un peu végétarienne, comme ça plaira beaucoup à une de mes filles, donc ça se teste.
Ouais. Mmh. Bah, ça se teste, des petits brocolis avec, pourquoi pas, un petit fromage façon raclette. Et restez avec nous, Jules, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, et nous savons que vous en pincez pour les recettes iodées. Je ne me trompe pas, vous aimez
surtout,
le poisson.
Surtout, dès qu'il commence à faire froid, oui, ça le sel remonte.
Et bien, atelier fish and chips dans un instant. Un plat que vous pourrez refaire ce week-end. On se retrouve juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. Et bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire.
Moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1. Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Soyez les bienvenus hein, si vous venez d'arriver. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Du cœur d'Aloyo à la nouvelle cuisine née sous Giscard, en passant par les confidences gourmandes de l'ancien président. Le menu est riche depuis 11h et nous revoici avec notre invité, Jules, dessinateur et bon vivant. Jules, vous aimez cuisiner. Qu'est-ce qu'on trouve obligatoirement dans votre frigo ?
Alors, il y a pas mal de turnover. Hein. C'est vrai qu'en plus, en famille, ça se vide très, très vite. Mais c'est vrai que parmi les fondamentaux qui restent et qu'on consomme petit à petit, il y a l'harissa maison qui est extraordinaire, en fait, que voilà, je garde pieusement dans mes pots. Il y a des capres aussi, parce que ça se marie bien avec tout. Et puis, il y a toujours quand même du fromage. C'est un peu le lait de la dernière minute. Même si on rentre à minuit en ayant bossé, d'avoir un peu de bon fromage, ça change tout.
Un vrai bon vivant français. Hein, c'est ça qu'on
le
reconnaît.
C'est parfait, c'est le fromage qui me plaît.
Ça ressemble à votre frigo, c'est ce que j'allais dire.
Non, sauf Larissa, sauf Larissa. Mais je veux bien la recette, par contre. Ça.
Oh là là, elle est extraordinaire. Ouais. Oh. En gros, il y a quand même... Tout est dans le dosage avec l'ail. Et l'huile, c'est-à-dire il n'y a pas que du piment comme ça écrasé, ouais. Parce que le truc qu'on trouve parfois un peu dans les kebabs, dans les choses comme ça, ou la sauce harissa quasiment industrielle, comme ça qu'on vend chez Metro, dans des seaux entiers,
qui est
etc.
Puissante, qui pique, quoi.
Elle est puissante, mais c'est un peu du détergent pour déboucher les tuyaux. Donc
ça fait mal quand ça passe. Hein.
Oui, c'est pas l'idée en fait. Au contraire, c'est très très fin, ça relève.
C'est
un exhausteur de goût. C'est le glutamate des Tunisiens, vous voyez.
C'est ça, exactement. Vous êtes un viandard, Jules, mais vous êtes aussi un amateur de poissons. Quel est votre poisson du moment?
Là, j'ai une espèce de passion secrète pour la barbue, en fait.
Ah.
Et j'ai découvert l'idée qu'on puisse mettre au four comme ça la barbue, juste avec presque rien et de l'accommoder. Ça, c'était. Je conseille à tout le monde.
C'est un poisson
plat,
la barbue.
En plus, ça a de la gueule.
Ouais. Je suis choquée parce que j'ai cuisiné une barbue il y a deux jours avant-hier. Donc, vous étiez là, en fait. Parce que je l'ai faite comme ça, pareil, avec juste de l'huile d'olive, du thym et au four. Et pif, paf, pouf.
La télépathie de la barbue, ça s'appelle. Ouais. Bravo.
Je suis choquée par l'odeur du plat qu'on vient de nous amener.
Alors, justement, je vous emmène au plat du jour. C'est un joli plat. Je vous parlais de fish and chips. Mais attention, ce n'est pas un fish and chips comme les autres. C'est celui d'un chef ultra créatif. Il s'appelle Guillaume Sanchez. Il a 30 ans. Il a grandi du côté de Bordeaux et c'est le chef du restaurant Nezo à Paris dans le 9e. Malgré le confinement, il continue de faire des plats à emporter et il a créé ce fish and chips pour la livraison avec un pain spécial qui enrobe le poisson. C'est vrai que c'est magnifique, il y a une coque comme ça. Hein, on va le décrire, Yves. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a même des petits pickles sur le dessus.
Ah, totalement, c'est vrai que quand c'est arrivé, ça a une odeur avec la légère acidité là, de ces pickles qui sont, je pense, des échalotes. Et c'est un chips, vous l'avez bien dit, enveloppé. En fin de compte, c'est, on va dire, allez, c'est un mini sandwich de poisson.
Exactement.
Voilà, mini sandwich de poisson, et c'est très agréable parce que cette croûte de pain permet de garder la saveur du poisson et surtout l'humidité et la sauce.
Et puis de le garder chaud parce que là, il vient d'être livré. Hein. C'est Guillaume Sanchez qui propose ce plat à emporter dans son restaurant. Et c'est vrai qu'il a vraiment inventé quelque chose parce qu'on pourrait dire visuellement que c'est une sorte de hot dog avec un pain spécial qui renferme un poisson. Jules, qu'est-ce que vous en pensez?
En plus, il y a plein de petites graines autour dans ce pain. Donc, il y a une dimension croquante.
Croustillante.
Oui, voilà, parce que ça peut être un peu spongieux parfois, le fish and chips.
Et là, ce n'est pas le cas. Quel est le secret de ce pain qui enrobe ce merlu, justement? Eh bien, Guillaume Sanchez a la réponse.
Salut les bons vivants, j'espère que ça vous plaît. Je suis un gros amateur de street food.
Oui.
C'est comme ça que j'ai pensé ma recette. Ce pain est assez simple à faire. Il suffit de partir d'une purée de pommes de terre qui va être fermentée en bocal pendant à peu près une semaine. Et c'est elle, en fait, qui va composer 50% de la recette du pain. Après, le reste, c'est juste une sorte de pâte à brioche mélangée avec cette purée de pommes de terre. Vous laissez reposer entre 6 et 12 heures au frigo et vous étalez, tout simplement. J'espère que ça peut vous aider pour refaire la recette chez vous. Au revoir les bons vivants et à très vite.
Eh bien, merci Guillaume Sanchez, parce que c'est une réussite. Vraiment, il y a, comme le disait Jules, ce contraste des textures et puis des saveurs aussi. Hein.
Oui, complètement. Et puis c'est vrai que ce pain, en plus, parce que étant donné que le poisson a vraiment été enrobé de sauce avant d'être enveloppé dans le pain s'est imbibé de la sauce. Et c'est vrai que ça amène beaucoup d'onctuosité. Et je redis, l'acidité qui est longue en bouche et qui se sert un peu d'exhausteur de goût. Qui se relève.
Qu'est-ce qu'on boit avec ce beau fish and chips, Ophélie?
Alors, on peut choisir évidemment un vin qui a grandi près de l'océan. Mais moi, j'ai envie de vous conseiller pour une fois autre chose. Le Bourgogne, ça coûte cher. Mais si vous prenez le cépage à ligoter, les Bourgognes à ligoter, c'est pas très cher. C'est assez acide, c'est en même temps un peu fruité. Et je trouve qu'avec un fish and chips, c'est le côté un peu simple, un petit peu populo, mais du Bourgogne. Et du coup, ça va très bien avec ça.
Verdict, Jules?
Moi, je suis plutôt team Bourgogne, donc ça me va bien.
Eh bien, ça vous va bien, très bien. Eh bien, on vous garde jusqu'à midi et demi, ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à table avec Jules et ça fait plaisir parce qu'il se régale et c'est un invité qui se tient bien à table, comme on dit, parce qu'on se régale avec le fish and chips de Guillaume Sanchez, le chef du restaurant Nezo à Paris dans le 9e arrondissement et qui a fait une vraie création, là, on peut le dire, Jules. Hein.
Bah oui, j'ai l'impression. ce qui est marrant, c'est que j'observe la façon dont chacun autour de dans ce studio mange son poisson. Alors il y a ceux qui le massacrent comme moi un petit peu en petite lamelle. Mais alors, il campe devant, par contre, il l'a coupé comme ça, tel un chirurgien. J'ai l'impression d'être dans c'est une ça. Salle d'opération.
Oui, parce qu'il adore le
précision.
Merlu. Hein, ouais. Il y a les pickles, il veut les trois textures.
Il a ouvert dans la longueur. Donc moi, j'ai tout coupé en tranches comme un massacre.
Jules, vous venez nous voir avec le dernier album de Lucky Luke. Vous êtes le scénariste, c'est HD, toujours le dessinateur. Un cow-boy dans le coton, c'est le titre de ce dernier album. Alors, c'est un très beau plaidoyer contre l'esclavage, évidemment, parce que ça se passe en Louisiane, un petit peu du côté de la Nouvelle-Orléans. Et Lucky Luke va se retrouver à la tête d'une plantation de coton, en fait. Hein.
Oui, on inverse un peu la logique. C'est la première fois que Lucky Luke passe du temps comme ça dans ces états du sud des États-Unis. C'était le point de départ de notre envie avec HD, c'était de mettre en scène à la fois ces paysages de grandes plantations de coton ultra romantiques à la hauteur n'emporte le vent, mais aussi le bayou avec les alligators, toute cette Amérique tropicale hein, qu'on n'imagine pas tellement. Donc on a fait venir tout le Far West dans le sud, parce que Lucky Luke, derrière lui, il y a les frères Dalton qui veulent sa peau, qui veulent récupérer
encore.
Le magot. Et aussi, il y a un personnage qui va nous servir de guide. Et c'est ça où il y a une petite révolution. C'est le Marshal Bass Reeves. C'est le premier grand Marshal noir.
Qui a existé, comme dans tous les albums de Lucky Luke.
Voilà.
Il y a des personnages historiques.
Comme il y a eu Billy the Kid ou Calamity Jane. Là, c'est le Marshal Reeves, qui est un ancien esclave, qui s'est enfui, qui était au Kansas, en Arkansas. Et c'est lui qui va expliquer à Lucky Luke comment ça marche. Parce qu'il est un petit peu naïf, il ne connaît pas grand-chose de toute cette histoire de ségrégation raciale, d'injustice. Lui, c'est le justicier, il pense qu'il y a d'un côté les méchants, de l'autre côté les gentils, puis il règle le problème. Mais là, malheureusement, à lui tout seul, il ne peut pas affronter le racisme. On le voit jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas réglé le problème, Lucky Luke. Mais en revanche, voilà, c'est une aventure assez généreuse, assez surprenante, qui à la fois respecte tous les codes. Hein. Il y a tous les gags, ça peut être lu aussi bien par les enfants que par les parents, il y a l'action. Mais il y a peut-être une profondeur historique et incroyablement une résonance avec aujourd'hui. Quoi.
Et il est question de cuisine Cajun. La cuisine Cajun, c'était cette cuisine apportée par les Français chassés du Canada et installée en Louisiane. La cuisine Cajun, il y a le jambalaya, il y a de la saucisse, il y a du riz, il y a du jambon. Hein. C'est une cuisine très métissée. Et il y a une phrase assez drôle dedans, justement, avec Averell. On lui dit « Vous voulez goûter ma cuisine Cajun ?» Et Averell répond « Agen ou pas, tout me va, franchement. » On retrouve le vrai Averell. Hein.
Oui, oui, oui. Alors lui, et alors il mange, donc il y a des petites huîtres aussi. Alors il mange les huîtres avec les coquilles en disant c'est très bon cette croustade, ça c'est toujours Averell qui est capable d'avaler n'importe quoi. Mais c'est vrai que en fin de compte, l'idée de manger du ragondin, des écrevisses, de l'alligator tel que le font les Cajuns traditionnellement, eux ils mangent de tout, hein. C'est un peu les Chinois du Bayou. Et ça c'est génial parce qu'Averell on sait bien que c'est un estomac sur pâte.
On le voit boire du whisky souvent dans les albums Lucky Luke. Est-ce qu'il aimait le vin ?
Ça c'est plus rare en fait. Il goûte du vin dans le précédent album où il voyage à Paris en fait pour la première fois. Il escorte la Statue de la Liberté, c'était un cow-boy à Paris. Mais là on est vraiment dans le sud, donc c'est plutôt le gombo et puis le bourbon bien madré.
Eh bien on a enquêté du côté du vin parce que Lucky Luke représente le Far West et Ophélie Neumann, notre co-girl est partie dans le Far West français à la recherche du vin le plus à l'ouest de la métropole. Vous avez une idée, tiens Jules ? C'est quoi le vin français le plus à l'ouest ?
Le plus à l'ouest.
Le vin du Far West.
Moi, je dirais dans le Cotentin. Non, je sais pas. Il y a un truc. Si
on
à la Hague, il paraît que à la sortie de la station d'épuration de la Hague, il sort un truc, mais c'est une piquette. Hein.
Mais ouais, c'est ça. C'est presque ça. Écoutez, c'est le Muscadet, mais c'est pas une piquette, le Muscadet.
Ah non.
Nous aussi, notre Far West, il est sauvage. On n'a pas besoin de flingue, on n'a pas besoin de cactus. Mais notre Far West à nous, il se vit en marinière, en ciré, en bottes en caoutchouc. Il laisse une trace salée sur les lèvres, il laisse un parfum d'iode dans les narines. Notre Far West à nous, c'est le Muscadet.
Eh bien oui, joli. Alors dans l'imaginaire collectif, le Muscadet, c'est juste un petit vin blanc de soif d'entrée de gamme.
Oui, mais... petit prix, petite qualité, mais en fait c'est beaucoup mieux que ça. Exactement, et on a tout à découvrir. Alors là, je viens de vous servir les Bêtes Curieuses de Jérémy Huchet et Jérémy Moura. C'est autour de 14 €, et non seulement c'est du Muscadet, mais c'est le cru de Clisson. On va en parler tout de suite. Mais d'abord, une petite devise. Vinette. Est-ce que vous savez ce que c'est le raisin du muscadet, le cépage utilisé ?
Le cépage. Moi, je le sais, mais parce que j'ai...
Il faut donner un indice. C'est botte de cuir.
Ah, si on dit botte de cuir, on a un...
Un melon.
Chapeau melon.
Ouais, exactement. Et c'est le melon de Bourgogne. Rien à voir, le melon de Bourgogne. Donc déjà, ça, c'est une surprise. Et puis ensuite, est-ce que quelqu'un peut me citer un cru du muscadet ? Je viens de vous le dire tout à l'heure.
Là, c'est plus compliqué, ça. Hein.
Bah, ouais. Ce qu'on sert là, dans les restos, comme ça, avec les cacahuètes, c'est le muscadet de Sèvres-et-Maine, mais je sais pas si c'est un cru.
Exactement. Ouais. Alors ça, c'est une appellation, tout à fait. Mais il existe 10 crus qui sont chacun une variation en fait, du muscadet. Il y a Clisson, il y a Gorges, il y a Le Palais, il y a Château Thébault. Et tout se situe effectivement dans l'appellation muscadet. Des Sèvres-et-Maine. Ils sont iodés, ils sont salins, mais selon le cru, ils vont avoir des arômes de coin, des arômes de fleurs, d'épices. Ils vont être onctueux ou puissants, longs ou fins, toujours en fonction du cru. Celui-ci, c'est Clisson, et vous voyez bien en bouche, c'est assez gras, c'est assez ample, c'est pas cette espèce de petit muscadet fluet qu'on imagine.
Alors, c'est parce qu'ils sont élevés sur lit, le fameux muscadet sur lit, comme on le voit sur les étiquettes. Expliquez-nous ce que ça veut dire,
c'est
ça.
La lit, en fait, ce sont les levures qui ont transformé le sucre en alcool pour donner le vin, et elles vont rester dans la bouteille et le vin va se reposer dessus. Et en se reposant dessus, il va gagner du gras, il va gagner de la puissance, mais aussi de la longévité. Alors, tous ces crus sont effectivement des vins élevés sur lit, mais on a 18 mois d'élevage minimum, mais ça peut aller jusqu'à 36 ou 48 mois d'élevage, 4 ans élevés sur lit. C'est à peu près autant qu'un grand champagne ou qu'un grand Bordeaux, mais à un prix vraiment différent. Du coup, on peut goûter des muscadets âgés de 15 ans qui sont plus solides que Joe Dalton, qui sont plus fringants que Jolly Jumper. Donc allons-y, quoi, en selle pour Noël.
Cow-boy. C'est ça.
Et vous passerez en plan.
On vous mettra les références sur europe1.fr. Merci Ophélie, Miss Glouglou pour les intimes. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le grill des bons vivants et avec Jules qui va passer sur le grill. Vous êtes prêts à y reprendre chips, tiens, du coup.
Oui, les chips, c'est
la vie.
Le carburant du brave.
Ah, c'est joli. A tout de suite avec Jules.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de la table des bons vivants avant le journal de midi et demi avec notre invité Jules qui vient nous voir avec Silex and the City, la dérive des confinements parus chez Dargaud. Et ça commence tout de suite par une scène à table, hein, autour du feu, avec ce pangolin qui a rendu tout le monde malade.
Oui, parce qu'en fait, à l'époque préhistorique, on n'est pas végan, hein, on mange du pangolin, du rôti de chauve-souris. Et donc, effectivement, ça, il peut nous arriver des bricoles après, mais en tout cas, on passe des bons moments autour du feu.
Alors, vous venez nous voir aussi, cher Jules, avec un très beau livre collectif paru aux éditions Pocket, Robert Laffont, « Lettre à ce prof qui a changé ma vie, enseigner la liberté ». C'est un hommage à Samuel Paty. Les bénéfices, d'ailleurs, vont au profit de la Bibliothèque Sans Frontières. Et vous êtes 40 auteurs à raconter vos rencontres marquantes avec vos professeurs. Alors, on a demandé à chaque auteur de choisir un professeur. Et vous, vous n'avez pas réussi. Vous avez voulu vous souvenir de tous vos professeurs marquants.
Oui, parce que je trouvais ça pas très sympa d'en élire un parmi d'autres. Alors qu'en fin de compte, même ceux qui sont un petit peu mauvais, on les garde dans notre cœur. Ça fait partie, en fait, d'un apprentissage. Et donc, j'ai parlé de tous mes professeurs de la maternelle à la grecque. Et il y a une prof en rapport avec la gastronomie qui était notre prof de SVT au collège.
Qui vous faisait faire des pizzas.
En fait, plutôt que bosser, on a fait une année entière quasiment dont l'intitulé du cours était uniquement faire une pizza. Et donc, il y avait alors le blé, la levure, on a cultivé nos tomates, etc.
C'est
et
génial,
à la fin, on a mangé une pizza.
Mais c'est super.
C'est la grosse glandouille, hein, quand même.
De la fourche à la fourchette.
C'est Anne-Laure Gourand, notre prof du collège à De Crolis, c'était super.
Vous rendez hommage aussi à un professeur qui vous a appris l'histoire chinoise et qui vous a aussi ouvert l'esprit parce que vous parlez chinois. Vous étiez avec Emmanuel Macron en Chine, avec la délégation officielle, Jules.
Voilà, et effectivement, pour moi, ça, la Chine et la gastronomie, c'est un des deux piliers de la civilisation chinoise, quelles que soient les mutations technologiques et culturelles d'aujourd'hui, il y a la langue et la gastronomie. Et ce professeur Joël Bellassène, qui m'a suivi pendant 12 ans comme professeur de chinois, très charismatique, lui, en fait, on faisait des voyages ensemble en Chine. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, on s'était fait imprimer des cartes de visite. C'était Monsieur Guo et Monsieur Mio. Et on disait qu'on était les guides Guo Mio. Et on se faisait inviter dans tous les restos à l'œil, comme ça, à travers la Chine, d'une province à l'autre. C'était extraordinaire, un périple gastronomique.
Vous nous avez parlé des oreilles de cochon chinois. Tout à l'heure, et quel est le plat vraiment qui vous rend dingue dans la cuisine chinoise, qui est une cuisine parfumée, mijotée parfois?
Il y a toutes sortes de cuisines, parce que la Chine, c'est un continent, donc il y a autant de provinces et de bourgades que de cuisines, mais c'est vrai que la cuisine sichuanaise, qui est très relevée, ou la cuisine du Hunan, pour moi, sont vraiment délicieuses. Donc voilà, il y a le porc à la soudongpo, qui est extraordinaire, je vous le conseille, c'est très fondant, voilà.
Eh bien, on passe à table et on continue avec Jules, et on va vous passer sur le grill des bons vivants, cher Jules. C'est parti. Alors, quel est le goût de votre enfance?
Alors, le goût de mon enfance, de ma tendre enfance, c'est ce sur quoi j'ai fait mes dents, en fait. Hein, avant même que, quand les dents commençaient à pousser, il faut toujours quelque chose de dur. Il y a des gens qui sucent des petits jouets et tout. Moi, c'était les croquets aux amandes de ma grand-mère tunisienne, en fait, qui étaient bien, bien durs, comme ça, qui étaient parfumés. Et donc, voilà, je les suçais jusqu'à en faire une espèce de bouillie. Ça devait être délicieux.
Mais c'est une jolie éducation au goût, ça aussi.
Ah oui,
c'est mieux
sûr.
Qu'un truc en plastique. Hein.
Oui, ouais, certainement.
Le premier plat que vous avez cuisiné?
Alors, j'ai essayé de remonter dans mes souvenirs, mais je me souviens de quelque chose qui avait fait un peu scandale. C'était en l'absence de mes parents, seul à la maison, je devais avoir 6 ans, j'avais entrepris de faire un gâteau au chocolat que j'ai mis au four. Et ma mère avait appelé pour savoir si tout allait bien. Et quand je lui ai dit que j'étais en train de faire un gâteau au chocolat, imaginez, j'ai une espèce de terreur totale.
Ah bah oui, le four.
Je pense qu'elle a dû faire du 200 à l'heure en voiture pour rentrer en imaginant l'appart réduit en cendres.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable, Jules?
Alors, il y en a plein, à vrai dire. Et puis, ça, c'est lié beaucoup à la compagnie. Mais ces voyages en Chine, j'étais parti avec quelques amis. On avait débarqué dans un village qui nous avait accueillis comme ça, de but en blanc, pour la nuit. Ils avaient fait un grand, grand festin. Tout le village était réuni autour de nous. Il y avait les notables qui se mettaient à table avec nous. Et on nous servait sans cesse. On est resté 8 heures à table sans s'arrêter. Et à chaque fois qu'on croyait que c'était fini, on nous rajoutait encore des plats. Et puis quand on a fait un très bon repas en Chine, à la fin, on vous donne une énorme bol de nouilles qu'il faut rajouter en plus par-dessus tout ce qu'on a pour éponger l'ensemble. Et puis on buvait de l'alcool de riz, on était ronds comme des barriques.
Oh oui.
Mais ceci dit, on a bien tenu, l'honneur était sauf. Mais c'était une merveille totale dans la province de Anhui.
Votre pire repas?
C'est l'absence de repas, hein, clairement. Mais sinon, je me souviens d'un repas qui était délicieux gastronomiquement, qui était ce qu'on appelait le Club Espagnol, qui était un social club à Valparaiso, au Chili. Je m'étais lié à des gens, comme ça, en voyageant. Ils m'avaient invité à leur table. Et c'était une famille, lui était chirurgien, comme ça. Mais en fait, ce club était un club, en fait, semi-nazi. Il était clairement indiqué à l'entrée du club, super chic, hein, avec un golf, un machin, que c'était interdit aux Juifs et aux Arabes, ne parlons pas des Noirs. Et ça, c'était encore possible au Chili il y a une quinzaine d'années. Hein. Donc,
incroyable.
C'est vraiment à peine la sortie du pinochetisme.
Bien, on sait que ces
pays ont
accueilli beaucoup
de nazis. Ça coupe l'appétit.
Quel que
soit le goût de la grillade, je peux vous assurer qu'on a une amertume en bouche.
Ah, je veux bien vous croire, oui. Votre plus grand succès en cuisine, Jules?
Alors, mon plus grand succès en cuisine, c'est en tout cas un qu'on a réitéré très très souvent avec mon grand ami Bella. On faisait les mardis de Jules et Bella. Tous les mardis, pendant un an et demi, on invitait une dizaine... C'était l'anti-dîner de con. On invitait entre 6 et 10 personnes et on leur disait d'amener quelqu'un d'exceptionnel à table. Donc, on se retrouvait une grande tablée. C'était un dîner merveilleux. On découvrait plein plein de gens. Et donc, pour que ça tourne, pour que ça aille vite, c'était notre poulet sauté au saté. Alors, les entrées variaient, mais en revanche, ce plat, on en faisait en quantité en plus, donc on en mangeait encore deux ou trois jours après. Donc pendant un an et demi, je me suis nourri du poulet sauté au saté. Alors regarde, je ne le supporte plus maintenant, mais c'est vrai que...
Votre bande originale pour cuisiner ?
Ça peut être plein de choses. J'écoute très souvent la radio et en fait, les émissions de débat, en fait, où on discute, donc cette espèce de brouhaha me berce. Mais c'est vrai qu'en musique, il faut un peu de gaieté très souvent, et puis pour se remettre un peu d'entrain. Donc j'ai pensé à La Baraka, qui est cette chanson moins connue de Charles Aznavour, mais qui est très très joyeuse, et que j'ai retrouvée dans la bande originale d'un film de Valérie Lemercier.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Jules ?
Alors, on a évoqué tout à l'heure un fidèle de mon frigo, c'est Larissa Maison, en fin de compte. Et donc, dans une île déserte, on se retrouve à manger des chenilles, des poissons à moitié décomposés, tout ce qu'on a pu attraper plus ou moins avec nos faibles moyens. Et Larissa, ça fait tout passer.
C'est une bonne idée, ça.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Jules ?
Alors, si on reste sur le chinois, man man che, ça veut dire bon appétit en chinois, mais littéralement, ça veut dire mange lentement. Et donc, c'est toute une philosophie de la vie et à laquelle je souscris bien volontiers.
Vous avez bien raison, à l'heure de l'immédiateté, de la réactivité à tout prix, mangeons lentement et on le sait, ça fait mieux digérer en plus. Merci Jules d'être venu à la table des bons vivants.
Merci beaucoup.
Vous en étiez un très bon. Je rappelle votre actualité qui est très riche, qui est dense. Silex and the City chez Dargaud, la dérive des confinements.
C'est pour, vraiment idéal pour la sortie enfin de ce...
C'est l'actualité.
Ça nous permet de prendre un peu de recul. Hein,
de mettre à distance toute cette folie du Covid.
Absolument. Un cow-boy dans le coton avec HD, ça c'est le dernier Lucky Luke, et puis Lettre à ce prof qui a changé ma vie, chez Robert Laffont Pocket, un bel hommage à Samuel Paty. Merci beaucoup Jules d'être venu à la table des bons vivants, merci les bons vivants Yves Cordebord et Ophélie Neyman, merci à toute ma bande de m'avoir aidé à préparer cette émission, Lucie Lescourt à la rédaction en chef, Julien Amat, Agnès Vaudin, Alice Foss et à la réalisation Jean-Luc Arblade, les amis, le vrai, l'officiel. Vous retrouverez l'émission sur europe1.fr en podcast, on sera là la semaine prochaine avec Catherine Jacob. C'est le week-end du Téléthon, pensez à faire le 36-37. Et puis demain, c'est la Saint-Nicolas. Alors faites et mangez du pain d'épices. Bon week-end, les amis. Dans un instant, c'est le journal de midi et demi de Fabienne Lemoyle. Salut tout le monde et merci, Jules.
Merci.
Encore des chips.